الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le fait de corriger l'imam si il a un doute dans la lecture. Il est permis et c'est même recommandé de le corriger. Pour cela, il y a le hadith de Musawwar ibn Yazid al-Asdi al-Maliki. Il a dit, j'étais présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a lu dans la prière, il a laissé une partie du Coran. Une personne lui a dit, « Ô messager d'Allah, tu as délaissé tel et tel verset. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Pourquoi ne me l'as-tu pas rappelé ?» De même qu'il y a le hadith d'Abdullah ibn Omar qui vient renforcer donc cette version, comme on a dit, « Elle est Hassan li ghayrihi » comme celle d'Abdullah ibn Omar aussi, qui est rapportée par Abu Daoud ou Ibn Hibban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, il récitait, il a eu un doute. Après la prière, il a dit à Ubay ibn Ka'b, qui était le meilleur connaisseur du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, ya Ubay, n'as-tu pas prié avec nous? Il a dit, si. Il a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de me reprendre, de me corriger? De même qu'il faut faire attention. Dans la manière de corriger l'imam, il y a des règles. Premièrement, on lui laisse le temps de se corriger tout seul. Sauf si on voit qu'il est en train d'avancer, il part, il a oublié. Là, on le reprend. Deuxièmement, un seul suffit. Troisièmement, laissez les places derrière l'imam à ceux qui sont capables de le corriger. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que soient juste derrière moi les gens doués de raison et d'intelligence ou de d'indulgence ou de connaissance. D'ailleurs, Ubay ibn Ka'b, dans une prière, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a énoncé auparavant ça. Il a vu quelqu'un qui était au premier rang, il l'a traversé tous les rangs en pleine prière. Il l'a tiré. La personne qui rapporte le hadith, il dit, il m'a tiré, je ne savais même plus où j'en étais dans la prière. J'ai tout oublié. Et il a pris ma place. C'est-à-dire, il l'a tiré du premier rang derrière l'imam et c'est lui qui a pris sa place en pleine prière. Après la prière, il lui a dit, ça c'est un pacte qu'il y a entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a demandé, nous les gens du Coran, d'être derrière. Ça c'est une chose auquel il faut faire attention. Quand vous faites les rangs, barakallahu fikoum, laissez toujours un peu d'espace là derrière l'imam pour que ceux qui connaissent le Coran, ceux qui sont capables de remplacer l'imam aussi, soient juste derrière lui. Autre chose, dans la manière de reprendre le fatha à l'imam, on élève la voix et on le dit d'une voix claire. De même qu'on le reprend s'il fait une faute qui change le sens du Coran. Si c'est une faute légère dans le tajwid, à la fin de la prière, on lui explique qu'il a fait une telle faute de tajwid, telle faute de récitation, par exemple. N'oublions pas aussi que le Coran, il a été révélé de plusieurs versions. Donc voilà les règles par rapport à la manière de reprendre l'imam. Un autre point, c'est détestable que le ma'moumin se dérange les uns les autres en lisant à voix haute, en faisant les adhkar à voix haute. Bien sûr, il faut que la langue, elle bouge. Et les lèvres, elles bougent. Sinon, ce n'est pas valable. Mais à voix basse. La preuve de cela, c'est le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, qui est un hadith sahih. Le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire l'i'tikaf, la retraite spirituelle à la mosquée. Il a entendu que les compagnons élevaient la voix dans la mosquée par la lecture du Coran. Il a levé le voile, car quand il a fait l'i'tikaf, la retraite spirituelle à la mosquée pendant Ramadan, il le faisait dans une tente turque. On lui faisait une tente au milieu de la mosquée, enfin dans un coin de la mosquée plutôt, où il faisait les i'tikaf, sallallahu alayhi wa sallam. Il a levé le voile de la tente et il leur a dit, chacun d'entre vous est en train de parler, avoir une conversation secrète avec son Seigneur, alors que l'un de vous ne nuise pas à l'autre et que l'un de vous n'élève pas la voix dans la lecture du Coran pour déranger l'autre. Donc ça, c'est valable pour la prière. C'est valable en dehors de la prière aussi. Quand on est dans la mosquée. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a interdit de gêner le prieur même avec la lecture du Coran. Alors qu'est-ce qu'on va dire des rigolades et des discussions et quand on élève la voix dans la mosquée sans raison valable et on gêne ceux qui font les prières surérogatoires ou ceux qui font zikrullah ou ceux qui lèvent les mains et font les invocations. Si pour, tu n'as pas le droit de le faire avec la lecture du Coran. Donc ça c'est quelque chose de très important qu'on répète après chaque prière. Des fois je tape sur le minbar pour demander le silence. Au moins, avant les prières, après les prières, quand les gens font des prières surérogatoires, c'est le moment où on ne parle pas, ou bien si on parle en chuchotant. On n'est pas dans la rue, on est dans une mosquée. Donc ça, c'est une chose qu'il faut apprendre. Barakallahu fikum. Car sinon, au lieu d'avoir des hasanat, on va avoir quoi? Des péchés. Alhamdulillah, ça fait plaisir de voir la mosquée vivante, de voir les gens qui se rencontrent, qui sont heureux de discuter les uns avec les autres. C'est une bonne chose. Mais pendant au moins les moments où les gens font un nawafil, les prières surérogatoires, avant le Jumu'ah, avant, après l'adhan, après Salat al-Farida, le moment où les gens font des prières surérogatoires, là c'est des moments, surtout pendant ces moments-là, où il ne faut pas faire de bruit. Pour ne pas déranger nos frères et nos sœurs, pour les sœurs, barakallahu fikum. De même que vous vous rappelez le hadith dont on avait parlé, de ce sahabi qui avait récité derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sabbih isma rabbika al-a'la, à voix haute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné après la prière et lui a dit, il y a quelqu'un qui me concurrence dans le Coran ici? Il l'a repris car il récitait à voix haute. Donc tout cela prouve bien que les gens qui sont derrière l'imam n'ont rien à faire à voix haute. Tout ce qu'ils font doit être fait à voix basse. Alors on va parler un petit peu plus en détail de la suivi de l'imam. La suivi de l'imam, elle peut être de quatre manières différentes. Enfin, il y a quatre manières de se comporter plutôt par rapport à la suivi de l'imam. Al-mutaba'a, le suivi. Al-musawat, le fait de faire l'acte en même temps que lui. Wat-taqaddum, devancer l'imam. Wat-takhalluf, se retarder ou prendre du retard sur l'imam. Quatre situations. On va parler de l'mutaba'a, l'obligation de suivre l'imam. Donc dans le hadith de Abi Huraira, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'imam a été fait pour être suivi. Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Il a fait pour être suivi. Quand il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Quand il s'incline, inclinez-vous. Quand il dit Sami Allahu liman hamidah, dites Rabbana wa lakal hamd. Quand il se prosterne, prosternez-vous. Et s'il prie assis, priez tous assis. Et dans la version de l'imam Muslim, il a dit, ne devancez pas l'imam. Et la suite du hadith, il est pareil. Quand il dit Allahu Akbar, dit Allahu Akbar jusqu'à la fin du hadith. Dans le hadith de Abi Huraira aussi, qui est rapporté aussi par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أو يجعل الله صورته صورة حمار. Donc le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, est-ce que l'un de vous n'a pas peur que s'il lève sa tête avant l'imam, Allah va transformer sa tête en tête d'âne, ou bien son image à l'image d'un âne? Ça c'est une mise en garde très dure du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui montre l'interdiction formelle de devancer l'imam dans quoi que ce soit parmi ses actes. Et que celui qui fait cela, il peut encourir la colère d'Allah et qu'Allah lui transforme sa tête en tête d'âne. Il est sous cette mise en garde. Et ne dites pas, comme l'Yahoud qui posait des questions qui ne servaient à rien, oui, mais on voit beaucoup de gens qui devancent l'imam jusqu'à maintenant, leur tête elle n'est pas en tête d'âne. Premièrement, cette personne, elle peut être ignorante. Deuxièmement, elle a pu faire ça par erreur, par oubli. Troisièmement, ça, c'est une mise en garde d'Allah. S'il veut, il la met en application. S'il ne veut pas, il ne la met pas en application. Ça, c'est Allah qui décide. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, on y croit. Point. Donc, tous ces hadiths montrent bien que ce n'est pas permis, ou alors que c'est obligatoire plutôt de suivre l'imam, et ce n'est pas permis de le devancer. De même qu'il n'est pas permis de faire les actes en même temps que lui. La preuve de cela, c'est le hadith rapporté aussi par al-Bukhari et Muslim de al-Bara ibn Azib, où il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait « Sami Allahu liman hamida », personne d'entre nous commençait à incliner son dos pour aller en prosternation jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prosterné, soit en prosternation, on se prosternait après lui. Donc ça montre bien que les sahaba, ils faisaient les actes après l'imam et non pas en même temps que lui. Naam. Donc, on a parlé du fait de l'obligation de le suivre et l'interdiction de le devancer et la gravité de le devancer. On a parlé de l'interdiction aussi de faire les actes en même temps que lui. Et on va finir avec les deux autres situations. Donc, le mutaba'a, on a dit, il y a quatre situations de celui qui est derrière l'imam par rapport à son suivi. El mutaba'a, c'est ce qui est demandé. Dès qu'il fait un acte, tu le fais tout de suite après. Plus tu le suis proche, plus la suivi est faite comme c'est demandé. Et c'est pour ça que vous verrez, par exemple, dans Taslim, quand l'imam dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, le premier Taslim. Et le deuxième, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'on attend qu'il finisse son deuxième Taslim? Au deuxième Taslim? Ou bien dès qu'il a fini sa première, on fait la première? Il y a divergence sur ce sujet, où le plus juste, wallahu a'lam, c'est que dès qu'il finit la première, on fait la première. Et dès qu'il finit la deuxième, on fait la deuxième. Non. On ne le devance pas. Il dit, assalamu alaikum wa rahmatullah. La première, nous on fait le premier. Il fait le deuxième, on fait le deuxième. Pour tout acte, c'est comme ça. Plus on est proche dans le suivi, plus on aura obéi à l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, hada fil mutaba'a. Deuxième, al-musawat. On a prouvé avec le hadith de Bara ibn Azib que c'était haram. Faire les actes en même temps que lui. D'accord? Et les ulama disent que si quelqu'un fait takbirat al-ihram, Allahu Akbar, le premier, en même temps que l'imam, sa salat, elle est caduque. Elle est annulée. Il devra la refaire. Il doit le dire après lui. Dès que l'imam dit Allahu Akbar, il dit Allahu Akbar. Pas avant lui. Si par erreur ou par oubli, il l'a dit avant lui, il le redit. Si par exemple, sans faire exprès, il a dit Allahu Akbar en même temps que lui ou avant l'imam. Tout de suite après, il le redit. Il redit Allahu Akbar et il rentre dans la prière. Car la personne qui dit Allahu Akbar avant l'imam ou en même temps que lui, il n'est même pas entré en prière, cette personne. Donc, il peut redire Allahu Akbar après lui. Hada fil musawat. Par contre, dans les autres actes, pour le musawat, s'il le fait en même temps que lui, c'est haram. Il fait un péché, mais sa prière ne sera pas annulée. Sa prière ne sera pas annulée, sauf dans takbirat al-ihram. Et certains ulama disent aussi at-taslim, le salam. C'est les deux actes dans lesquels il ne devra pas le faire en même temps que lui, ni le devancer. Par contre, en ce qui concerne le devancer, donc on a parlé de le suivre. On a parlé de faire les actes en même temps que lui. Maintenant, on va parler du fait de devancer l'imam. Est-ce que si on devance l'imam, on a dit que c'était haram. On est d'accord pour dire que c'est haram. Maintenant, la deuxième étape. Est-ce que notre prière est invalide ou non? Est-ce que si on le devance dans tous les actes, notre prière est invalide ou seulement dans takbirat al-ihram et taslim? Sur cette question, il y a divergence entre les savants. Une majorité de savants ont dit que si on le devance dans takbirat al-ihram, dans le takbir du début, le premier takbir, le premier Allahu Akbar, ou dans le taslim, dans le fait de dire assalamu alaikum, finir la prière à la fin, la prière est annulée. Mais dans le reste, la personne aura un péché, mais sa prière ne sera pas annulée. Ça, c'est un avis parmi l'avis des savants. Le deuxième avis dit que dans tout acte, dans tout pilier de la prière, si on devance l'imam dans un pilier parmi les piliers de la prière entière est annulée. Par exemple, quelqu'un va en recours avant l'imam. Quelqu'un se relève du recours avant l'imam. Quelqu'un va en soujoud avant l'imam. Quelqu'un, etc., etc. Si quelqu'un fait cela en toute conscience, en toute conscience, et en connaissant cette règle, ou allez ça, jahil, ce n'est pas un ignorant. Salatuhu batila. Mais si quelqu'un l'a fait par erreur, par exemple, il est parti en recours avant l'imam, par erreur, il s'est rendu compte de cela, que doit-il faire? Il doit se relever et repartir en recours après l'imam. Sinon, sa salat sera annulée. C'est clair, et quoi? Non. Ça, c'est en ce qui concerne al-musabaqa. Musabaqatul imam. Le fait de devancer l'imam dans les actes qui sont des piliers, comme al-qiyam, al-ruku', al-sujud, se relever du ruku', se relever du sujud, etc., etc., al-taslim, dire salam, par exemple, ou si quelqu'un par erreur, des fois par erreur, quelqu'un, il croit qu'il est en prière seul, il fait tashahhud, et il dit assalamu alaikum wa rahmatullah avant l'imam. Qu'est-ce qu'il devra faire? Il revient en prière et quand l'imam dit assalamu alaikum, il le redit après lui. Et sa prière sera valide, inshallah. Tant qu'il ne l'a pas fait exprès. S'il l'a fait exprès, sa prière est invalide. S'il l'a fait par erreur, il devra revenir dans la prière et faire l'acte dans lequel il a devancé l'imam après l'imam, le refaire. Donc là, on a parlé de trois cas. Al-mutaba'a, le suivi. Al-musawat, le fait d'être en même temps que l'imam. Al-musabaqa, le fait de le devancer. Al-takhalluf. Maintenant, on va parler de takhalluf. Se retarder, prendre du retard sur l'imam dans ses actes. Par exemple, il y a des frères ou des sœurs, ils sont par exemple dans la prière, et quand il est en prosternation, il fait des du'a, des invocations. L'imam s'est relevé, lui, il a envie de rester en prosternation. Il reste en prosternation. Masha'Allah, il veut faire encore des du'a. Jusqu'à que l'imam s'est relevé, il s'est assis, et il est reparti en prosternation. Lui, il n'a pas encore fini sa première prosternation. Alors que l'imam est déjà descendu dans la deuxième prosternation. Certains savants voient que la prière de cette personne-là, elle est batil, elle est invalide. Pourquoi? Parce que l'imam l'a devancé de deux piliers. Le premier pilier, c'est de s'asseoir entre les deux sujoud. Le deuxième, c'est la deuxième prosternation. Si c'est quelqu'un, il fait ça par excuse, dans le sens où il est ignorant, il ne sait pas. Sa prière n'est pas invalide. Ou bien, il est malade, il n'arrive pas à suivre, il est fatigué, il n'arrive pas à suivre le rythme de l'imam. Il a une excuse. Ou bien, il n'entend pas. Par exemple, il est dans une salle en dessous, le micro ne fonctionne plus. Il n'entend pas le takbir. Il ne sait pas où il en est, l'imam. Celui-là aussi, il est excusé. Etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il devra faire? Un exemple. Quelqu'un suit l'imam dans une autre salle ou bien loin de l'imam et il n'entend pas bien le takbir. Il n'entend pas bien les Allahu Akbar de changement de position jusqu'à que l'imam l'a devancé de 1, 2, 3, 4 piliers. Dès qu'il s'en rend compte, dès qu'il sait où en est l'imam, alors il devra rattraper ce qui lui manque et le rejoindre dans le pilier dans lequel il en est. Il est. Par exemple, lui, il était debout. Il n'a pas entendu Allahu Akbar du recours, ni Sami Allahu liman hamida de se relever du recours, ni Allahu Akbar du sujoud. ni Allahu Akbar, il s'est relevé du sujoud. Il a re-entendu le micro, par exemple, il a recommencé à fonctionner à Allahu Akbar au deuxième sujoud. Ou bien il commence à, il a vu les gens, ils sont en train de faire le sujoud. Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Allahu Akbar, il fait le recours. Il refait le relevé du recours. Il va au premier sujoud et il rejoint l'imam et la groupe et il finit avec eux. Il n'aura, sa prière sera valide et il n'y aura aucun manque, inshallah, dans sa prière. Car il s'est retardé ou il a pris du retard sur l'imam pour une raison valable. On est clair? Un autre cas. Il est en qiyam. Il est debout. Ils l'ont devancé carrément d'une rak'at entière. Jusqu'au point où l'imam, il se relevait en qiyam. Debout. Et lui, il est encore debout. Qu'est-ce qu'il devra faire à ce moment-là? La rak'at qu'il a ratée avec l'imam, il l'efface. Il fait comme s'il ne l'avait pas faite, comme s'il venait de rejoindre la prière. Ou bien, si par exemple, il était en qiyam dans sa deuxième rak'at, lui, il attendait et l'imam s'est levé pour la troisième rak'at. Donc lui, il finit avec l'imam et quand l'imam dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah », il se lève et il fait la rak'at qui lui manque. C'est clair, ikhwa? Wadih al-amr? De même, donc, ça doit être clair que se retarder, prendre du retard, tarder derrière l'imam pour la suivi, la yajouz kadhalik. Ce n'est pas permis. Pour le même dalil, pour la même preuve qu'on a dit tout à l'heure, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. L'imam est fait pour être suivi. Pour être suivi. Naam. Au cas où l'imam fait une erreur dans sa prière, il se lève pour la cinquième rak'at. Ou bien, il fait une erreur et il dit assalamu alaikum à la deuxième ou à la troisième rak'at au lieu de quatre. Certains disent, on le suit dans tous les cas. Et une fois qu'il a fait l'erreur, il est sorti, on lui explique et on rattrape avec lui le manque. Deuxième avis. Si on est sûr, par exemple, qu'il est dans la cinquième rak'at, on reste assis. On lui dit subhanallah. Il ne veut pas s'asseoir. Ya imam, t'es dans la cinquième rak'at. Il ne veut pas s'asseoir. Ils disent quoi? Tu restes assis. Et quand lui, il finit, il s'assoit. Il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Après, tu te fahamu. Après, vous faites salam avec lui. Après, vous expliquez. Et s'il se rend compte qu'il a tort, il fera ses deux sujoud. Ça, c'est un avis. Et d'autres disent, s'il rajoute ou il diminue, on ne le suit pas. Si on est sûr. Par exemple, lui, il dit assalamu alaikum wa rahmatullah. De la deuxième rak'at, il sort. Nous, on reste en prière, on ne dit pas salam alaikum. Hein, il lui dit, il te manque une rak'at, ou il te manque deux rak'at. Il ne veut pas, on finit la prière tout seul. Donc, ceux qui disent qu'il ne faut pas suivre l'imam, ils disent quoi? Ils disent, tu sais qu'il rajoute quelque chose. Et il y a un accord entre les savants, que celui qui sait qu'il rajoute une rak'at dans sa prière elle est invalide. Alors, les gens qui sont derrière l'imam, ils le savent. Donc, comment ils peuvent rajouter alors qu'ils le savent? S'ils le font, leur prière est invalide. Ça, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Parmi les savants, d'autres disent, on le suit, quoi qu'il fasse. Et ils se basent sur des hadiths. Premièrement, hadith al-bab, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Le premier hadith, l'imam a été fait pour être suivi. Deuxième hadith. Le hadith de Dhul-Yadayn qu'on vient de citer. Taïb. Vous dites, ces savants-là disent, à l'autre groupe de savants, vous dites que celui qui rajoute dans la prière une rak'a, en sachant qu'il est en train de rajouter sa prière, elle est invalide. Mais vous êtes d'accord aussi pour dire que celui qui dit salam, qui diminue de sa prière alors qu'il sait très bien que sa prière elle est invalide. Alors qu'il sait très bien qu'il lui manque de la prière, sa prière est invalide. Mais pourtant, sahaba, ils sont tous sortis de la prière en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont suivi. Et leur prière, elle n'était pas invalide. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait dit. L'autre groupe répond. Oui, mais à l'époque des compagnons, il y avait un doute. Est-ce que la prière a diminué ou non? Ils ne savaient pas est-ce que c'était une nouvelle législation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue. Donc, ils avaient une excuse valable de sortir de la prière. L'autre groupe répond, oui, Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des règles et des lois, il ne les fait pas que pour ses compagnons, il les fait pour toute la communauté. Donc si, même si eux ils avaient l'excuse de ne sortir de la prière car ils pensaient que la prière avait changé, ceux qui viennent après eux ont besoin de connaître cette règle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué, car il n'est pas permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de retarder l'explication des choses quand il y a un besoin. Donc il leur a expliqué, il leur a dit, si une prochaine fois votre imam diminue la prière, ne sortez pas avec lui, sinon votre prière est invalide. Il leur a dit quelque chose. Donc s'il n'a rien dit, cela veut dire que pour toute sa communauté, cette règle elle est valable. Et de même, ils se sont basés sur un autre hadith et ils ont discuté pareil que cette discussion que je viens de vous donner. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a fait 5 rak'at au lieu de 4. Et ils l'ont tous suivi. Et à la fin de la prière, ils lui ont dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi ne m'avez-vous pas repris? Il fallait me reprendre. Innama ana basharun. Je ne suis qu'un être humain. J'oublie comme vous oubliez. Si j'oublie, rappelez-moi. Donc, sur ce hadith aussi, il y a eu la même discussion exactement que ce que je vous ai dit auparavant sur le hadith de Dhul Yadayn. Et une dernière, peut-être, preuve pour appuyer cet avis. Oui, effectivement, quelqu'un qui rajoute dans sa prière, en sachant qu'il rajoute, sa prière est invalide. Ou celui qui diminue sa prière, en sachant qu'il diminue, sa prière est invalide. Oui, mais quand il n'a pas d'excuse. Là, il a une excuse. C'est quoi cette excuse? C'est qu'il est derrière un imam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de suivre l'imam. Donc, il est excusé de suivre pour, parce que cet ordre-là, il vient lui demander de le suivre. Cette excuse-là, elle est au-dessus, comme on l'a vu dans les hadiths précédents. Wallahu a'lam. Une autre question. Si l'imam prie assis pour une raison valable, car il ne peut pas prier debout, est-ce qu'on prie derrière lui assis ou est-ce qu'on prie derrière lui debout? Je vais vous énoncer les preuves de chacun. La tasta'jilou. Et Inch'Allah, on va essayer d'arriver à une khulasa. Le premier avis. C'est obligatoire de s'asseoir assis derrière lui, comme lui. C'est l'avis de l'imam Ahmed. Ou Ishaq ibn Rahawai. Et de l'imam Al-Awza'i. Et ibn Al-Mundhir. Et Dawoud et ibn Hazm Al-Zahiriyan. Et c'est rapporté de Jabir ibn Abdillah. Et d'Abu Huraira, et d'Usayd ibn Hudayr, et Qays ibn Qahd. Et on ne connaît pas un parmi les compagnons qui a dit le contraire de cet avis. Ils se sont basés sur quoi? Premièrement, le hadith de Aïcha rapporté par Al-Bukhari et Muslim. De même, ce hadith il a été rapporté par Anas et Abu Huraira. Donc ce hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignait de douleur. Il a prié assis. Dans sa maison. Et les gens sont venus derrière lui, ils ont prié derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe de sa main. Asseyez-vous. Et à la fin de la prière, il leur a dit, l'imam a été instauré pour être suivi. Quand il s'incline, inclinez-vous. Quand il se relève, relevez-vous. Et s'il prie assis, priez tous assis. Donc, comme on a dit, ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, qui est rapporté par Muslim et Abu Daoud et Nasa'i ibn Majah, qui est un hadith sahih, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignait de douleur, de maladie. C'était la maladie de la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. On a prié derrière lui, et lui était assis. Et Abu Bakr élève la voix pour nous faire entendre le takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est tourné vers nous, il nous a vus debout. Alors il nous a fait signe. On s'est assis, en suivant sa prière, tous assis. Quand il a salué, il s'est tourné, il leur a dit, vous avez fait dernièrement la même chose que les Perses et les Byzantins, qui se mettent debout pour leur roi. Leurs rois sont assis, et eux, ils sont debout pour eux. Il a dit, ne le faites pas, et suivez vos imams. S'ils prient debout, priez debout. Et s'ils prient assis, prier assis. Donc ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis. Et le deuxième avis, c'est l'avis de pas mal aussi de savants, peut-être même la majorité, parmi eux, Abu Hanifa, wa Shafi'i, wa Malik. Ils disent, que il n'est pas permis de prier derrière un imam qui prie assis. On est obligé de prier debout. Et ils répondent aux preuves du premier groupe avec des réponses. Première réponse. Ils disent que les hadiths qui sont énoncés par le premier groupe, ils sont abrogés. Ils sont abrogés. C'est-à-dire que cette règle, elle n'est plus d'actualité. Elle existait, mais elle a été abrogée. Ils disent comment ? Car dans le hadith de Aïcha, où Abu Bakr a fait la prière aux gens, la fin du hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez lui, il était malade. C'est Abu Bakr qui présidait la prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wajada fi nafsihi khiffa. Il s'est trouvé de la force, il s'est dit, tiens, je vais aller prier avec le groupe. Il est sorti porté par deux personnes. Et l'un d'eux était l'Abbas pour la prière de Dhuhr. Et c'est Abu Bakr qui présidait la prière. Quand Abu Bakr l'a vu, il voulait se reculer pour laisser la place au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de ne pas reculer. Puis ils disent, on a assis le prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et Abu Bakr priait debout en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis. Et les gens suivaient la prière d'Abu Bakr car ils ne voyaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Ils disent ça, c'est à la maladie, c'est à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il a prié assis et ses compagnons ont prié debout. Donc ça prouve que cela abroge les autres hadiths qui étaient énoncés auparavant. On va répondre après. On laisse, Inch'Allah. Donc, comment... Les autres, le premier groupe a répondu à cela. Ils ont dit, Abu Bakr, dans ce hadith-là, c'était lui l'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié derrière Abu Bakr, et non pas le contraire, dans ce hadith. Les autres ont répondu, il a dit, si vous dites cela, d'accord, dans certains hadiths, oui, c'était Abu Bakr l'imam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade pendant 10 jours. Dans 10 jours, il y a plus de 60 prières. Il dit, dans ces 60 prières, peut-être une fois, c'était lui l'imam. Il y a d'autres hadiths qui prouvent qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a présidé assis et Abu Bakr, il l'a suivi debout. L'imam Ahmed ibn Hanbal a bien répondu à tout cela. Et il a dit, dans l'histoire d'Abu Bakr al-Siddiq, l'imam a commencé à présider la prière debout. Et c'est pendant la prière qu'il y a eu un changement d'imam et que l'imam était assis. Et dans ce cas-là, les gens qui sont derrière l'imam restent debout. Et il a réuni entre les deux hadiths, les premiers qu'on a vus et ceux-là. Et il a dit, si l'imam commence la prière assis, on est obligé de s'asseoir avec lui. Mais s'il commence la prière debout, et pendant la prière, il ne sent plus la force de rester debout, il s'assoit, dans ce cas-là, lui, il reste assis et nous, on reste debout. Lui, il reste assis et nous, on reste debout. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed qui a réuni tous les hadiths et qui en a sorti cette règle. Ceux qui disaient qu'il fallait qu'il reste debout, ils se sont basés aussi sur d'autres règles, dans le sens que le fait de rester debout, c'est d'être debout, c'est un rukn, c'est un pilier, donc on ne délaisse pas le pilier sans raison valable, etc., etc. Wallahu a'lam, l'avis le plus juste dans cette question, c'est que, comme l'imam Ahmed rahimahullah a dit, je ne veux pas vous rentrer plus dans les détails, j'ai peur que vous vous perdiez, on va rester dans cette simplicité, Inch'Allah. c'est que si l'imam commence la prière assis, on s'assoit tous obligatoirement. Quelle est la preuve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pleine prière, il fait signe aux sahaba. Si ce n'était pas obligatoire, il va faire des signes. Et encore après la prière, il leur dit, pourquoi vous faites comme les Perses et les Romains? C'est-à-dire, il ne va pas les mettre en garde et leur interdire de faire une chose et les faire ressembler aux Perses ou aux Romains si ce n'était pas quelque chose d'interdit. Donc ça prouve que si l'imam commence assis, on prie assis avec lui. Le seul cas où on ne prie pas assis avec lui, où c'est permis de rester debout, ou bien où on reste debout, c'est le cas où l'imam s'assoit en cours de prière, comme on a vu dans l'histoire d'Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, qui est un cas différent au cas où l'imam est assis depuis le début de la prière jusqu'à la fin. Wadih l'amr, inshallah. Autre question, on va finir avec deux, trois autres questions, on va s'arrêter là, inshallah. Il est permis à quelqu'un derrière l'imam de faire entendre le takbir de l'imam aux gens qui sont derrière lui, l'ilhaja, s'il y a un besoin. Comme Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu l'a fait. Quand il faisait le takbir derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que les gens derrière lui entendent le takbir. Mais attention, il faut savoir que les imams de l'islam, la plupart des savants, ou la grande majorité des savants disent que dire Allahu Akbar derrière l'imam, sans besoin, par exemple il y a un micro, on entend, et quand même quelqu'un derrière il dit Allahu Akbar ou Sami Allah ou Rabbana wa lakal hamd, sans besoin, c'est-à-dire on entend le takbir de l'imam, ils disent c'est une bid'a et ce n'est pas autorisé. Si le micro ne marche pas bien et on a besoin d'utiliser la voix humaine pour se faire entendre à des gens encore plus loin, on le fait. Wa illa, on ne le fait pas. Non. Autre question, istikhlaf l'imam. Comme on a parlé, le fait de remplacer l'imam dans la prière. Par exemple, si l'imam, pour une raison ou pour une autre, il a besoin de sortir de la prière. Comme par exemple, il se rappelle qu'il n'a pas les ablutions. Ou bien il a besoin de sortir de la prière, il a un besoin pressant. Par exemple, il a besoin de refaire les ablutions. Il ne peut pas attendre jusqu'à la fin de la prière. Ou pour une excuse valable. Une excuse valable qui le permette de sortir de la prière. Alors, il a le droit de se faire remplacer par quelqu'un. Il y a des preuves en cela. Le premièrement, c'est le hadith de Sahl ibn Sa'd dans l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir les Bani Amr ibn Auf pour réconcilier entre eux. Et c'est Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu qui a présidé la prière pour les gens. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, les gens n'ont pas accepté cela. Comment quelqu'un préside la prière devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont tapé, ils ont fait du bruit. Jusqu'à Abu Bakr, ils disent Abu Bakr ne se retournait jamais dans la prière. Mais là, ils ont tellement tapé, ils s'est dit il y a quelque chose, il s'est retourné pour voir qu'est-ce qui se passe. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est reculé, et il s'est mis dans le rang, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est devancé, et c'est lui qui a fait l'imam. Donc ça prouve qu'en pleine prière, un imam peut prendre la place d'un autre. Sinon, ça n'aurait pas été valide. Donc s'il y a un besoin, encore plus s'il y a une raison valable, c'est-à-dire que l'imam a un besoin de sortir de la prière. De même qu'il a été rapporté dans le hadith de Amr ibn Maymoun, dans l'histoire où Omar ibn al-Khattab s'est fait poignarder en pleine prière. Et il a dit, Allahu Akbar, le chien m'a tué. Parce que Omar avait interdit de garder les associateurs, les non-musulmans dans Jazirat al-Arab, dans la péninsule arabique. Et ils avaient gardé un des esclaves, lui parmi ceux qu'il a tué, c'était un esclave polythéiste. Et quand il est tombé, il a tiré la main de Abdurrahman ibn Auf et il l'a devancé pour finir la prière. Et Abdurrahman ibn Auf a fini la prière, mais il l'a allégé. Donc, et tous les sahabas étaient présents et personne n'avait rien à dire à cet acte-là. Ils ont agréé et accepté cette manière de faire. Ce qui prouve que c'est un accord, c'est comme un ijma'. Un consensus إجماع سكوت ici, un consensus des Sahaba sur le fait qu'on peut se faire remplacer dans la prière quand il y a un besoin. De même qu'il a été rapporté qu'une fois Omar ibn Khattab a présidé la prière pour les gens, et après les deux premières rak'at, il est resté longtemps assis. Longtemps. Puis il s'est levé, il s'est retourné vers les gens, et il a pris la main d'un homme et il l'a devancé. Il a dit, il s'est rappelé qu'il avait eu des rapports avec l'une de ses femmes auparavant, et il a trouvé qu'un liquide, pendant sa prière, un liquide sortait, ou bien un liquide sur son vêtement, donc il est sorti de la prière. Non. De même, ça a été rapporté aussi que Ali, radiallahu anhu, a présidé la prière aux gens. Il a pris, en pleine prière, il a pris une personne derrière, il l'a pris à sa place et lui, il est sorti de la prière. Donc tout cela, ça prouve. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a pris la place de Abu Bakr. Et à l'époque des Khulafa al-Rashidin, des califs bien guidés, ils se sont eux-mêmes levés et tirés des gens pour les remplacer à leur place. Donc cela prouve que c'est permis. La personne qui remplace l'imam, est-ce que il finit sa prière à lui ou est-ce qu'il finit la prière de l'imam? Par exemple, l'imam a commencé la prière et il y a quelqu'un qui l'a rejoint à la deuxième raka'a. D'accord? Ou bien il s'est mis dans le premier rang ici ou à sa droite, al-muhim. Il est venu avec l'imam dans la deuxième raka'a. Il n'a pas fait la première raka'at avec l'imam. L'imam a eu besoin de sortir de la prière, il a tiré cette personne. L'imam était dans la deuxième raka'at, la personne qui l'a tiré, elle est dans la première raka'at. Tayyib. Cette personne qui l'a tiré, est-ce qu'il finit sa prière à lui, c'est-à-dire il compte comme s'il est dans la première raka'at, et il finit, ou est-ce qu'il finit la prière de l'imam? C'est-à-dire, il compte comme s'il était dans la deuxième raka'at et il finit. Les savants ont divergé sur ce sujet. Certains ont dit, il finit sa prière à lui. C'est-à-dire, si lui, il n'a fait qu'une raka'at, il vient faire la deuxième raka'at. Quand ils vont se lever, quand les gens vont être à la deuxième raka'at, ils vont rester assis. Il leur fait signe de la main. En tashahhud, mais il reste assis. Lui, il se lève, il fait la raka'at qui lui manque. Ils s'assoient, ils font tous le tashahhud ensemble et ils finissent la prière ensemble. Et ceux à qui il manquait des rak'at, après son salam à lui, ils se lèvent et ils finissent leur prière. Wadih al-amr, ça c'est le premier avis. Le deuxième avis dit que non. Il fait comme s'il était à la place de l'imam. Et après avoir fini la prière, lui il refait sa prière. Mais l'avis le plus juste est le premier. Pourquoi? Car l'imam, le fait de diriger la prière du premier, elle s'est annulée à partir du moment où il est sorti. Donc maintenant, l'imam, elle est pour celui qui préside. Et en l'occurrence, celui qui préside, là, il n'a fait qu'une raka'at. Donc il doit obligatoirement, lui, finir sa prière complète. Mais pour que justement, il n'y ait pas de problème entre lui et les gens, il leur demande de s'asseoir. Pour le manque de la raka'at, il a fini seul pendant que les gens l'attendent assis. Inch'Allah. La dernière question, si l'imam, après avoir fini la prière, se rappelle qu'il a fait la prière sans les ablutions, est-ce que lui seulement recommence la prière ou est-ce que tout le monde qui ont prié derrière lui recommence la prière? C'est une question aussi qui a suscité une divergence entre les savants. Et l'imam Malik wa Shafi'i wa l'imam Ahmad, ils disent que lui seul recommence la prière, car lui seul n'avait pas cette condition de validité de la prière, alors que les gens derrière lui, ils avaient cette condition. Et l'imam Abu Hanifa, il dit, et l'imam Thawri, ils disent que non, tout le monde recommence la prière. Et le plus juste, wallahu a'lam, c'est que seul l'imam recommence la prière. Et cet avis a été rapporté de Omar ibn al-Khattab et de Abdullah ibn Omar et de Uthman et de Ali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen.